Alors, Michel Murator, ce soir, je vous propose un alter regard sur la musicothérapie. La musicothérapie, c'est la musique, c'est de l'art, c'est la culture. Et je ne peux pas ne pas parler de la situation dramatique de la culture dans notre pays cette année et sans doute les prochaines. Les coupes budgétaires de l'État et de nombreuses collectivités locales plongent le service public de l'art et de la culture dans une situation alarmante. La région Pays de Loire, vous avez sans doute entendu, a décidé de réduire de plus de 70% la part allouée à la culture et au sport aussi d'ailleurs. D'autres régions et départements s'apprêtent à faire de même. Le département de l'Hérault, c'est 100%. Autrement dit, suppression pure et simple du budget pour la culture. Les Alpes-Maritimes, on ne sait pas encore, mais on sait qu'il y aura des baisses de subventions. L'Opéra de Toulon, qui vient de licencier son chœur. Un opéra sans chœur, il faudra m'expliquer comment on fait. Au niveau national, les mauvaises nouvelles ne sont guère plus rassurantes. Le 17 janvier dernier, nous apprenions une baisse de 50 millions d'euros, dont 35 millions sur le pass culture. Cette décision de réduction du budget consacré au pass culture est une décision dramatique qui remet en cause tous les projets portés par des enseignants et des compagnies de théâtre, des ensembles de musique. Certes, le pass culture individuel devrait être revu pour mieux répondre à l'objectif de démocratisation de la culture et favoriser plus le spectacle vivant. Un rapport de la Cour des comptes pointe tous les problèmes du pass culture individuel. Mais le pass culture collectif, porté par les enseignants, permettait à des élèves qui ne sont jamais allés au théâtre d'assister à une représentation. Ce pass culture collectif doit être maintenu et revalorisé. Parallèlement, le jour où on restreint le pass culture collectif, on ouvre le droit au pass culture au Puy du Fou. Aucun parc d'attractions n'est éligible au pass culture, sauf maintenant le Puy du Fou. Sur ce sujet aussi, on favorise l'individualisation au détriment du collectif. Or, la culture, outil de démocratisation, d'émancipation, le collectif est très important. C'est par l'échange sur les œuvres que l'on forme son goût, ses préférences et son sens critique. On est en train de casser ça, quel gâchis! Je pourrais faire une émission entière sur le pass culture, mais laissons ma colère de côté et revenons à la musique pour ne pas sombrer dans la déprime. D'ailleurs, un dicton populaire dit « la musique adoucit les mœurs ». Les vertus de la musique pour notre santé sont nombreuses. La mémoire, le réconfort, des soins thérapeutiques, et alors on parle de musicothérapie. C'est l'utilisation de la musique, du son, dans une démarche de soins. Des centaines d'études scientifiques objectivent la musicothérapie pour ses effets sur l'humeur, l'anxiété, la douleur, la qualité de vie des personnes souffrant de schizophrénie et d'autisme, les malades d'Alzheimer et de Parkinson, les troubles d'apprentissage et bien d'autres. Dans de nouvelles études, il ressort que les chansons permettent de déformer nos souvenirs pour les rendre plus joyeux et ainsi adoucir un passé douloureux. Mon invité est professeur de musique et musicothérapeute. Alexandre, bonjour, tu peux te présenter.
Bonjour, merci de m'accueillir pour cette émission consacrée à la musicothérapie. Et puis j'imagine qu'on développera l'art-thérapie, la dimension thérapeutique. Voilà, je m'appelle Alexandre Davin, j'enseigne le jazz, la batterie jazz et l'improvisation au conservatoire d'Antibes Jean Lépin depuis plus de 20 ans. Maintenant, et dans ce conservatoire, j'accueille chaque semaine deux groupes d'enfants qui souffrent, qui rencontrent des troubles du développement et qui viennent de l'hôpital de jour de La Fontaine d'Antibes, à raison de deux séances par semaine.
Alors, on reviendra en détail, bien sûr, là-dessus. Mais ton parcours, parce que tu n'as pas commencé par professeur de musique, comment on devient professeur de musique? Et puis, tu avais un terrain, je dirais, favorable, puisque tu étais éducateur spécialisé. Donc, tu peux nous expliquer ce cheminement qui t'a amené à être professeur de musique et à être musicothérapeute.
Je suis né dans une famille de musiciens, et donc ça, la musique, pour moi, c'était déjà quelque chose d'acquis. Et concernant mon avenir, je n'ai eu de cesse de travailler ma musique, de rentrer au conservatoire, de passer mes diplômes, mes prix, etc. Et dans le même temps, j'ai toujours été assez passionné et engagé dans les relations sociales et le handicap depuis tout petit. Y compris dans ma famille, j'étais entouré de mes tantes, etc., qui étaient déjà éducatrices spécialisées pour, à l'époque, ce qu'on appelait des grands psychotiques. Et il s'est trouvé qu'à l'âge de faire mon service militaire, j'ai fait un service civil, et j'étais ce qu'on appelait aide-éducateur dans un foyer de vie, c'est-à-dire de la réinsertion sociale par le travail agricole. Donc, je travaillais dans un foyer de vie qui était à dans une ferme, et donc j'ai fait tout ça, j'ai au contact des résidents qui étaient en souffrance psychique.
Alors après, donc du coup, entre éducateurs spécialisés et, bon, y a le fil conducteur, c'est la musique, bien entendu, j'ai bien compris, mais comment on devient musicothérapeute? Tu peux aussi nous donner le parcours d'études, il y a des auditeurs qui sont
intéressés. Bien sûr, je reviens sur cette période de ma vie, il m'a fallu faire un choix, puisque je me dirigeais à la fois vers le métier d'éducateur spécialisé, et je suis resté longtemps dans cette structure, sans pour autant accéder au diplôme, puisque j'ai fait le choix de continuer ma musique et d'intégrer le conservatoire, là pour le coup, pour avoir une formation diplômante, ce que j'ai eu. Donc le temps a passé, j'ai joué beaucoup de musique, j'ai arrêté ce rôle d'éducateur spécialisé, cette fonction d'éducateur spécialisé, pour me consacrer uniquement à la musique. J'ai passé mes diplômes, mes concours, et je vais très vite, la période est beaucoup plus longue, et je me suis retrouvé donc, grâce à mes concours, enseignant dans un conservatoire, en l'occurrence le conservatoire d'Antibes. Et voilà. Mais cette expérience du passé, dans le social, et cette attirance pour le monde du handicap, je me suis dit, je m'étais déjà intéressé à la musicothérapie, et à l'époque, ce n'était pas hyper développé en France. Elle était en Belgique, au Canada, etc. Et ça a été en fait une rencontre. Lorsque je suis arrivé au conservatoire d'Antibes, j'ai rencontré une personne qui, à l'époque, en échangeant sur nos parcours, j'avais fait un peu de théâtre aussi, elle aussi, on échange sur nos pratiques musicales, artistiques, y compris sur nos parcours professionnels, dont moi, ma petite période en tant qu'éducateur spécialisé. Et on a cette idée qui germe de musicothérapie au conservatoire, c'est-à-dire une convention qui pourrait être signée entre la mairie, l'hôpital et le conservatoire pour créer un atelier de musicothérapie au conservatoire que je dirigerai avec des enfants venant de l'hôpital de Jouan.
Alors, voilà. On va y revenir, mais plus spécialement, les diplômes, le parcours pour être musicothérapeute. Il faut être musicien, il faut être... Bon, musicien, j'imagine, mais il faut avoir aussi une formation psycho, enfin, quelque chose comme ça.
Alors, clairement, quand j'ai démarré l'atelier Musique Essence, lorsqu'on a créé l'atelier Musique Essence au conservatoire, j'ai demandé de suite à suivre une formation diplômante de musicothérapie. Je m'étais renseigné, je savais qu'il y avait un DU qui existait sur Paris, sur Aix, etc. Donc je suis monté à Paris, j'ai fait une demande de subvention et je me suis formé tout en construisant cet atelier à Antibes qui s'appelle aujourd'hui Musique Essence. Donc, j'ai soutenu un mémoire qui s'appelle la dimension thérapeutique, une dimension nécessaire, etc. Comment le devenir d'un musicothérapeute, quoi. Voilà. Plutôt le parcours d'un musicothérapeute en devenir, pardon.
Donc, si les auditeurs sont intéressés, donc il y a une formation et on prend. Et le recrutement, ça se fait à quel niveau alors? Avec une expérience
Ça se fait avec une expérience, avec bien sûr les choses basiques. Un entretien, voilà.
Alors,
il y a plusieurs structures, il y a beaucoup de structures privées aussi, Moi, en l'occurrence, c'était le Centre international de musicothérapie, qui se situe en banlieue parisienne. Mais il y a aussi, on peut aussi passer des DU voilà, dans certaines universités.
Il y a une filière publique.
Oui, avec, bien sûr, il y a tout l'aspect, c'est la fac de psycho, hein, les facs de psychologie. Souvent, il y a des modules de psychologie à avoir et à passer et à étudier, bien sûr, et pour devenir musicothérapeute. Voilà.
Tu peux nous revenir sur la rencontre, parce que finalement, nos parcours de vie, c'est souvent, très souvent, une rencontre. Donc, cette rencontre, tu es à l'époque, tu es professeur au conservatoire, tu as une élève, voilà.
À l'époque, je suis professeur de jazz au conservatoire, et j'ai une élève adulte qui se présente à moi et qui me dit, voilà, est-ce que vous faites des cours de percussion africaine, etc., ici? Et puis, je dis, bah, pourquoi pas, on échange... encore une fois sur nos parcours, et puis je découvre voilà, cette personne qui est à l'époque pédopsychiatre et qui dirige le service de la petite enfance à l'hôpital de La Fontaine, et l'idée germe de cette rencontre, hein, vraiment, hein. L'idée, la structuration, mon envie de suite d'aboutir à la formation, de me consacrer pleinement à ça. Et c'est vrai, du fait de mon parcours, c'était une, on va dire une, je sais pas le mot, mais une, un sens évident, quoi, ce que j'allais pouvoir donner à ma vie professionnelle.
donc Michel Murator. Nous nous retrouvons avec Alexandre Davin pour parler de musicothérapie. Alors tout d'abord, pourquoi tu as choisi ce morceau ? Un lien avec ton travail, avec...
Oui, ben, ce morceau, en fait, c'est un morceau, ce qu'on appelle... En musicothérapie, il y a des morceaux qui sonnent ou qu'on appelle des morceaux de travail. Donc là, le titre, c'est « Don't buy ivory anymore ». Donc, c'est, vous comprendrez qu'il s'agit d'éléphants. Et que, je crois que c'est Glenn Ferry, sur l'enregistrement, voilà, les enfants, ça fait écho de suite en thérapie, puisque la musicothérapie, c'est de rétablir du lien. Hein, parfois, ce sont des enfants qui sont parfois mutiques. Et donc, l'idée, c'est de, via ce média musique, de rétablir une communication qui a été perdue ou qui n'a jamais été...
Et ce morceau se prête bien, justement.
Ça fait écho chez eux très souvent, puisque les éléphants, il y a quelque chose d'assez majestueux chez ces animaux. Et puis, la musique qu'il y a derrière, etc. Tous ces sons-là. Et moi, je travaille beaucoup avec un peu de jazz, avec bien sûr la grande musique, dite classique, ou même. Je travaille avec beaucoup de musique, en fait. Et c'est vrai que dans mes sessions d'écoute, hein, qu'on appelle la musicothérapie réceptive, j'essaie toujours d'orienter mes choix musicaux pour qu'il y ait une résonance vraiment sensorielle, quoi, et que ça favorise le verbal, surtout.
Alors, on peut revenir. Donc, tu as mis en place ces ateliers que tu appelles Musique et Sens, qui s'adressent à des enfants suivis à l'hôpital d'Antibes. Mmh. Donc, nous préciser un petit peu la pathologie des enfants que tu accueilles dans ces ateliers.
Alors, déjà, je voudrais saluer l'équipe avec laquelle je travaille, qui est vraiment formidable, les éducatrices qui m'accompagnent, etc. Je dois dire que depuis ces années, on fait vraiment un travail collectif et que je les mêle à la création, hein, puisqu'un atelier de musicothérapie, c'est avant tout un atelier de création. Dans la mesure, où c'est un atelier de musicothérapie de groupe. Hein. L'action n'est pas individualisée, c'est de la musicothérapie de groupe. Donc on trouve un thème, etc. Et la question, pardon Michel, c'était...
Mais comment les enfants que tu accueilles, leur pathologie...
Sont désignés pour participer.
Leur pathologie, comment ils sont, voilà, tout ça.
Alors ça appartient à l'équipe de l'hôpital, hein, soignante, en fonction de la disponibilité des enfants.
L'hôpital de jour.
Oui, absolument. Puisqu'ils ont tous des prises en charge, chaque jour différentes. Donc c'est aussi des histoires d'emploi du temps. Mais c'est surtout, la question qu'on se pose, c'est... Est-ce que, je ne sais pas, je vais prendre un nom au hasard, est-ce que Théo, qu'est-ce que ça apporterait à Théo d'intégrer l'atelier Musique et Sens au conservatoire ? Voilà. Donc c'est vraiment ces questionnements-là que l'équipe a, et elle s'en réfère à moi pour plus ou moins valider, on en discute, on fait parfois des essais avec certains enfants, hein, parfois je les suis sur 2 années, et puis parfois ça marche pas, parfois les troubles sont trop... Parfois le fait d'être en collectif, c'est compliqué. Hein, on sait que l'autisme, c'est pas facile avec le collectif. Hein, donc voilà, etc.
Alors, on dit des enfants donc en des pathologies, mais essentiellement... Dans le langage courant, on dit c'est des autistes. Bon, c'est,
oui, alors
y
ils sont pas tous... Ils,
voilà.
sont, ils rencontrent pas tous des troubles autistiques. Ça peut être des troubles associés aussi, mais c'est aussi des troubles du développement, hein, tout simplement. Et voilà.
Et ils sont mis en... Alors, donc c'est l'équipe de l'hôpital, disons, de soignants, qui a pensé que tel ou tel enfant, ce serait positif pour tel ou tel enfant. Après, toi, tu rencontres, bien entendu, les parcours des enfants. Mais les enfants, du coup, c'est des groupes. Hein, donc, 5 enfants, tu disais, par groupe de 5, 6.
Oui, maximum.
Maximum 5.
Oui, oui.
Est-ce
suivant l'âge, etc.
Il y a des enfants... qui sont plus... Là, on a entendu un morceau, tu dis, réagissent bien, mais il y a des enfants qui vont réagir plus à un morceau qu'à un autre.
Le bien et le mal, c'est...
Comment après, on gère tout ça?
Oui, oui. Non, ce morceau-là, c'est un peu l'hymne de mes ateliers, puisque j'ai remarqué que ce morceau-là fonctionnait vraiment à merveille, quoi, avec les enfants. Et d'ailleurs, on ne fait pas juste de l'écoute, ça veut dire qu'après, on travaille autour de ça, autour du barrissement des éléphants, etc. Et par exemple, la transversalité que je pourrais avoir et construire dans mon travail, c'est C'est pourquoi pas avoir un échange avec la professeure de trombone, mm-hmm. hein, puisque ce barrissement d'éléphant est exécuté avec un trombone. Donc voilà, d'accueillir quelqu'un de l'extérieur, ça c'est pas facile aussi. Mm-hmm. Hein, ces enfants qui rencontrent ces troubles-là sont souvent très fragiles à la nouveauté. Et donc voilà, on fait tout un travail autour de ça. Et puis bien sûr, un travail autour du morceau. Beaucoup plus digital, si je puis dire, avec l'exploration des matières, etc. Pas forcément des instruments de percussion classiques, hein, j'entends, ça peut être des frottements de feuilles, des choses comme ça, élaborer des explorations de matière.
Tu as maintenant une... Ça fait combien d'années que ces ateliers existent ? Une grande expérience.
Ça va faire bientôt 20 ans.
Ça va faire bientôt 20 ans, donc oui. Tu as une grande expérience. Et tu peux dire, finalement, sur telle pathologie, on est bien avec tel morceau, oui, telle musique. Voilà, comment tu peux caractériser, comme on dit,
la fameuse quête du résultat, hein, toujours. Alors, c'est vrai qu'en thérapie, on dit souvent, hein, puisque c'est... La dimension thérapeutique, je pense qu'elle s'acquiert là-dedans. C'est-à-dire que vouloir ou n'avoir en tête que la notion ou cette quête de résultat, c'est, comme disait une amie pédopsychiatre, c'est aller droit dans le mur. Hein. Donc vraiment, si ta question, c'est comment on se rend compte de l'évolution des enfants à l'intérieur de ces ateliers dites d'art-thérapie ou de musicothérapie, en tous les cas, à médias artistiques, elle se voit... Et elle ne se constate qu'avec le retour et des équipes soignantes, et des parents, et des éducateurs, etc., et du musicothérapeute, bien sûr. Donc c'est vraiment par les observations de ces enfants en situation qu'on s'aperçoit de la pertinence de ces ateliers.
Et donc, après, il y a aussi, c'est un groupe, c'est des enfants qui sont beaucoup, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais plutôt renfermés sur eux-mêmes, et là, on arrive à avoir un peu une ouverture à l'autre, à s'écouter, à communiquer, tout ça.
Oui, clairement, je cite toujours l'exemple, il arrive qu'on ait vraiment, alors ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, hein, ça se fait encore parfois sur 2 ans, avec le même groupe, et puis je cite toujours cet exemple, on va reprendre le petit Théo, qui était complètement mutique. Et donc, il venait chaque semaine au conservatoire, mais il était assez adapté, assez acclimaté à la salle du conservatoire. Et je communiquais verbalement avec ses petits collègues. Et Théo, il se mettait dans une chaise, il manipulait un peu, il écoutait avec des yeux... sa préoccupation, c'était d'où vient plutôt le son, hein, puis cette enveloppe sonore d'un coup dans lequel on me plonge, que j'ai pas demandé. Hein. Mais il était assez calme, parfois un peu remuant, si la musique qu'on pratiquait, ou par rapport, ils sont très sensibles au volume aussi, donc soit la musique qu'on pratiquait sur des djembés, sur des percussions, ou soit la musique que moi je diffusais. Voilà, il était plus ou moins à l'aise, mais jamais dans l'excès, pas de gestes violents, etc. Et puis un jour, je fabrique toujours, ou je vais acheter parfois dans les magasins de bricolage, des choses justement à gratter, à tordre, etc., pour souffler dedans des tuyaux des gaines électriques, etc. Et des choses comme ça qu'on transforme en instruments mélodiques, quoi. C'est ce qu'on appelle l'instrumentarium. Et je me souviens d'une fois, je m'amusais à chanter une note dans le bout d'un tuyau, et un autre enfant prenait l'extrémité et le mettait à son oreille. Et on sifflait des choses. J'avais fait un travail sur les oiseaux, un peu suite à en lien avec l'œuvre de Messiaen. Et j'essaye avec ce petit Théo qui comprend qu'il faut mettre le tuyau à son oreille. Et moi, je change complètement mon mode de jeu et je lui dis « Bonjour Théo ». Et il prend le tuyau et il me dit « Bonjour Alex ». Et ça, ça a été, voilà, ça a été toujours le... Et on s'est tous stoppés net. Je pense même les enfants qui le connaissaient aussi. Dans tous les cas, les éduques, il y a toujours deux éducatrices qui m'accompagnent, hein, qui sont là en mode, bien plus que des assistantes, encore une fois, ce sont vraiment des collègues. Et voilà, c'était des petits moments de grâce comme ça, voilà. Et c'est chouette parce que derrière, bah, ça veut dire que ça montre une évolution et puis c'est encourageant, c'est rassurant. Et surtout pour les parents, hein, de se dire, bah, il a communiqué en atelier, et voilà, voilà.
Alors, autre point qui paraît important, c'est qu'en fait, ils viennent au conservatoire. On les sort de l'hôpital.
Absolument.
Voilà, donc ça aussi, tu vois...
Ça, c'était un vrai souhait, parce que c'est vraiment le parcours de socialisation, il démarre là. C'est-à-dire à partir du moment où on quitte l'hôpital, on monte dans le camion. Alors à l'époque, on avait un conservatoire qui jouxtait quasiment l'hôpital. Il venait à pied, hein, la plupart du temps. Et donc, oui, ça c'est vraiment inclus dans le parcours de... là, pour moi, la séance démarre à partir du moment où ils montent dans le camion. Vraiment. Hein. Quand ils arrivent, il y a tout un rituel. Soit je les attends pendant une période, je vais me dire... Ben, là, je vais les attendre de la même façon, c'est-à-dire je les attends au piano. Par exemple, je commence à jouer avant qu'ils arrivent. Hein. Donc, ils savent du fond du couloir que je suis là, etc., qu'il y a tout un petit rituel comme ça, et ils rentrent. Et on se dit même pas bonjour, c'est notre façon de nous dire bonjour. Ils rentrent, ils ont encore les manteaux, ils viennent de s'agglutiner autour de moi, et ils continuent à jouer avec moi un peu au piano. Voilà, il y a eu tant d'exemples comme ceux-là, voilà.
Et alors, quand ils viennent, il y a d'autres enfants dans le conservatoire ou c'est à une heure où il n'y a que...
C'est que c'est choisi comme ça. Il peut y arriver qu'il y ait d'autres. Ils croisent du monde, hein, déjà.
Voilà, c'est ça, surtout la question.
Socialiser, c'est dire bonjour aux filles de l'accueil en bas, par exemple. C'est la femme de ménage, etc. Ils croisent quelques profs qui sont là en début d'après-midi. Mais c'est vrai que par rapport à leurs horaires, ils viennent plutôt en début d'après-midi, en semaine. Donc, il y a moins d'élèves. Hein. Le gros des élèves arrive à partir de 16 heures. Donc, il y a quand même des chams quand même qui sont là, des classes horaires aménagées, musique. Et voilà, mais il y a tout ça. D'ailleurs, ils sont très très sensibles à ça. Hein.
Oui, c'est ça, parce que ils sont savoir comment en fait ils se sentent intégrés dans toute cette structure.
Oui.
Mm-hmm. Ils se sentent. C'est un élément.
Oui, surtout qu'on a changé de structure, hein, comme je le disais, on a un nouveau conservatoire Antibes depuis 3 ans. On est très très fiers et très heureux d'y aller chaque jour. La fleur au fusil et le sourire, hein, vraiment. Et donc, lorsqu'il y a eu du changement, ces enfants-là ne supportent pas trop le changement, comme ça, brutal. Donc, au tout début, mes séances étaient rassurées et on faisait des visites. C'est-à-dire, les 2-3 premières séances, avant d'entrer dans ma salle où l'atelier allait se faire, on faisait des tours du pâté de maison, pour certains, etc., les couloirs, tout ça, l'auditorium, tout ça, on leur a fait s'approprier le lieu, hein, sans ça, ça marche pas, voilà. Et la salle, c'est devenu leur espace, vraiment dédié, et ritualisé, hein, donc j'arrive, le manteau, le machin, hop, je m'installe là, je mets la chaise, donc il y a tout un rituel, ouais, qui s'opère.
Et on sent qu'ils sont intégrés maintenant. Au bout de combien de séances, je dirais, on sent qu'ils sont... Parce que, alors, c'est 1 an et 2 ans pour certains, tu dis.
Oui, ça varie suivant aussi les prises en charge des enfants, hein, les projets thérapeutiques, etc. Parfois, des enfants quittent la structure pour aller en IME ou des choses comme ça. Oui, ça dépend de plein de choses, mais globalement, c'est des enfants. Les enfants, je les suis sur 2 ans. Donc, je fais un travail sur 2 ans avec un. Depuis quelques années, j'ai mis en place des micro-spectacles de fin d'année. Il n'y a pas de raison.
Oui, effectivement. Ils ont quel âge ces enfants ?
En général, les grands, ça va de. Je crois qu'ils sont pris en charge à l'hôpital de jour jusqu'à 8 ans. Donc, j'ai un groupe qui va de 6 à 8. Et un autre groupe avec les plus petits.
Jusqu'à
6 ans.
Cette continuité est importante quand même sur les ateliers. C'est une fois par semaine ?
C'est deux fois par semaine, à raison de 2 fois par semaine, avec 2 groupes, avec 2 tranches d'âge différentes. Hein. Donc j'ai les grands le mardi et les petits le jeudi, avec qu'elles, je ne fais pas la même chose du tout. Bon, eux aussi en construction, ils le sont tous, mais voilà, j'acte pas mon geste thérapeutique, artistique, de la même manière, suivant les tranches d'âge.
Oui, parce qu'en fait, ils sont groupés par âge et pas par maladie.
Et pas par trouble, oui.
Et pas par trouble. Et donc, cet échange avec des psychologies différentes, c'est quelque chose qui fait évoluer aussi l'enfant. De croiser, d'être dans un groupe.
Je veux dire d'être
dans un groupe.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La notion de groupe, pour eux, c'est très, très, très subjectif. Quoi. Donc, ils sont habitués à avoir des prises en charge individuelles, hein, quand même. Alors, à l'hôpital, de jour, il se trouve qu'ils sont ensemble quasiment toute la journée. Ils vont en classe. Hein, la journée, il y a un instituteur, une institutrice, en l'occurrence. Et ils font ils ont des prises en charge collectives, quand même. Mais là, on leur demande d'explorer des choses, hein, donc ça fait appel motricité fine, etc. Enfin, et puis les interactions, accepter les interactions. Hein, j'envoie un son, si j'envoie un son, je dois accepter le son de l'autre. Enfin, tout ça, c'est apprivoiser son territoire et apprivoiser les territoires des autres, surtout, hein, pour en faire une grande communication et un collectif, ce qui fait le collectif.
Ouais. Accord à côté sur.
Ouais.
Donc Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter regard pour parler de musicothérapie avec Alexandre Dava. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau, comment il s'insère dans tes ateliers, dans ton travail de musicothérapeute?
Pour plein de raisons. La première, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de musique de travail. C'en est une. Hein, là, on parle de musique de décharge. Voilà. Alors, cette musique de décharge, je la passe souvent soit en début de séance. Hein, après, c'est en fonction de l'humeur, de la détention, en fonction du moment, en fait. Mais très souvent, c'est ritualisé. Je mets toujours une musique de décharge et on s'accueille ensemble, on se dit bonjour par la danse, par le défoulement. Hein, on appelle ça une musique de décharge. Et ce morceau « Ouais, ouais » de Wes Stéphane, je trouve vraiment propice à ça. Et puis, ces répétitions de « Ouais, ouais », etc., ça, les enfants les reprennent comme des écolalies, vraiment. Et c'est assez chouette. On commence déjà la séance et la communication à ce moment-là, quoi, à cet instant-là. Il se trouve qu'en plus, c'est un artiste lequel je suis assez proche. Hein, c'est un peu la famille. J'aime beaucoup travailler avec lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, voilà, je suis toujours très, très, comme je disais tout à l'heure, précis dans mes choix. Hein, c'est des choix que je fais en amont. Je dis, ben voilà, on va travailler ou se décharger avec cette musique-là. Je pense que ça peut... C'est que cette musique peut rencontrer vraiment l'univers des enfants, quoi.
Les enfants réagissent déjà. Enfin, la séance n'est pas commencée, tu mets la musique, ou tout à l'heure tu disais je joue du piano, les enfants réagissent déjà à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Alors ils réagissent là, mais ils sont. Oui, vas-y.
Pardon. À une époque, sur une séquence donnée, je les accueillais plutôt avec. Au piano, hein, voilà, et on faisait. Non pas une musique de décharge, mais un accueil, une musique d'accueil avec déjà de la pratique active, c'est-à-dire moi au piano et avec eux qui me rejoignaient. Voilà. Et dans d'autres temps, je fonctionnais avec vraiment une musique de décharge, style qu'on vient d'écouter de Wes Stéphane. Et voilà. Donc ça dépend mes périodes, ça dépend des groupes, ça dépend du travail que je vais leur proposer par la suite. Hein, si j'ai besoin qu'ils soient beaucoup plus calmes et centrés sur l'aspect, sur la musicothérapie dite active, hein, c'est-à-dire manipulation d'instruments, etc. J'évite parfois la musique de décharge un peu trop brutale.
Alors en fait, quand ils arrivent, je ne sais pas, ils arrivent à 15h, mettons, ils ont eu aussi plein d'activités avant, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément toujours dans le même état, je dirais, de réception de tout ce qui va se passer, non? Il y a quand même là aussi un temps d'adaptation.
Il y a un temps d'adaptation, je parlais tout à l'heure du parcours, de socialisation, le transport, tout ça, la relation avec les éducateurs, hein, voilà, encore une fois, je ne sais jamais dans quel état je vais les trouver, dans quel état de disponibilité ils vont être lorsque je vais les... voilà. Mais j'avoue que depuis nombreuses années maintenant, ça me réjouit plutôt. Et au contraire, j'en fais une force, hein, de savoir jamais vraiment sur ce que je vais tomber, est-ce qu'ils vont être ouverts, est-ce qu'ils vont être... réceptif, vraiment. J'ai aucune inquiétude à ce jour sur les enfants que je suis. Et puis, parce que dans les. Peu importe le cas de figure, mon travail, c'est de réagir et de proposer et de m'adapter.
Alors, ils arrivent ils sont par petits groupes, ils ont eu d'autres activités. Mmh. C'est le même groupe, c'est-à-dire le groupe est constitué ou c'est des enfants qui viennent de diverses activités? C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu un temps ensemble ou c'est qu'à cette occasion-là qu'ils sont ensemble?
Non, mais c'est vrai que nous, je les reçois en début d'après-midi, donc ils ont le repas du midi. Après, certains partent en individuel chez l'orthophoniste, etc. Ils ont des prises en charge. Et après, ils se regroupent à telle heure pour venir ensemble au conservatoire. Oui, bien sûr, ce qu'ils font avant et ce qu'ils vont faire après, c'est impactant pour eux, quoi, sur le déroulement de la séance. Donc c'est pour ça que c'est nous tous ensemble, on doit bien cerner les profils, hein, c'est-à-dire voir par rapport à justement leur prise en charge multiple, savoir est-ce que d'un coup couper dans l'après-midi, venir au conservatoire, qu'est-ce que ça va leur apporter? La seule question, c'est est-ce que vraiment quitter haut, ça va lui apporter?
Oui, et parce qu'il y a une notion de groupe dans tout apprentissage. Donc là, ce groupe, il se constitue avec toi ou il est déjà constitué un peu avant? Ils font déjà des activités ensemble ou ils arrivent?
Je dirais qu'il est constitué pour moi, pour cet atelier au conservatoire. D'accord. Les deux groupes sont constitués pour le conservatoire. Ça veut dire que l'équipe soignante considère que on va faire un essai avec ces quatre là, ces cinq là, etc.
Et qui peuvent, vivre ensemble pendant la demi-heure. Ça dure une demi-heure, une séance.
Donc, ça dure 30 minutes.
30 minutes, voilà, qui peuvent vivre ensemble pendant 30 minutes, parce qu'il y a ça aussi.
Oui. C'est plus ou moins élastique, hein, c'est souvent plus.
D'accord. Donc, on va un peu détailler une séance. Tu vas nous expliquer une séance. Tu dis c'est apprendre à communiquer. Tu as un peu parlé de la musique d'accueil, mais bon, cette musique, elle favorise aussi l'entrée dans l'atelier, mais aussi
la mise en condition. Oui, c'est ça. C'est comme faire des vocalises avant de chanter, quoi. Hein, et donc nous, on sait que encore une fois, que cet atelier, je vais les faire improviser. Hein, je suis improvisateur, donc je me sers beaucoup. L'improvisation, c'est l'outil maître du musicothérapeute, hein, c'est-à-dire ouvrir vraiment en grand ses capteurs, repérer qu'il y a un enfant qui est plutôt en interaction avec ce son-là ou cet instrument, etc. Il faut vraiment avoir un œil tout le temps et des oreilles très très ouvertes pour créer. Hein. Et donc, passer cette musique de décharge musique d'accueil, hein, ce rituel d'accueil, là, je les propulse dans une aventure explorative du sonore, hein, clairement. Et on construit un discours musical. Alors, en ce moment, on est plutôt dans... Ça passe par du brainstorming, des mots, des sons. Hein. Quand je dis du brainstorming, c'est pas forcément... je peux mettre un mot au tableau, genre jouet, par exemple, un jouet, hein, et tout ce qui en découle. Et encore une fois, c'est la communication, c'est favoriser le verbal. Hein, donc, mon action, c'est favoriser le verbal. Donc, on part de ce mot, jouet. Et puis, tout en jouant sur des percussions, en frottant des choses, hop, on fait des stops, on s'arrête et on envoie un mot, par exemple, camion, hop, et on reprend de la musique et on s'arrête, et on renvoie un autre mot, maison, ou Playmobil, j'ai pas le droit de dire de marque, peut-être, mais voilà. Et on en fait un discours musical et une petite histoire qu'on note, autour de laquelle on va travailler, on va enrichir, et on pourra peut-être à terme présenter.
D'accord. Alors, donc, dans les instruments, entre guillemets, que tu présentes, il y a la voix. Oui. Donc là, tu dis qu'elle fait parler. Oui. Il y a le chant aussi.
Oui, le chant, oui. L'usage du micro est vraiment prépondérant dans ces ateliers-là. Alors que ça peut paraître, mais la première fois, tous, quand on a entendu notre voix dans un micro, je pense qu'on s'en rappelle toutes et tous. Et donc, pour un enfant, d'autant plus, et d'autant plus qu'il rencontre des troubles du développement, etc., c'est à la fois très effrayant et à la fois très séduisant aussi, parfois. Donc, j'avoue que le micro a beaucoup de succès. Donc, j'essaie de m'en servir régulièrement et pour favoriser ça, encore une fois, la communication.
Alors, après, tu présentes des instruments. Tu appelles ça l'instrumentarium.
Oui, l'instrumentarium, c'est la caisse à outils du musicothérapeute, quoi. Mmh. Hein, voilà.
Donc tu les fais, tu leur présentes, tu les fais jouer sur chaque.
Ouais.
Alors toi, tu fais de la batterie, toi. Enfin, c'est ça, batterie.
Moi, je suis batterie. Je fais piano, je fais un peu de la basse, etc. Mais donc voilà, je suis pas du tout centré là. Puis là, pour le coup, on ne se sert jamais de la batterie.
Tu leur proposes quoi comme instrument?
Très peu. Oh, ben, plein de choses, vraiment. Et encore une fois, on se met au sol. Ça, c'est la phase de découverte. Hein. Mmh. Et des instruments qui ont des résonances, des cymbales. Parfois, je leur crée aussi une forêt de cymbales. C'est-à-dire que je mets plein de pieds de cymbales en cercle. Et je les mets... Et je dis à un enfant de se mettre au milieu avec des maillotches. Et c'est assez incroyable. Et ils explorent les cymbales, ce contact, soit avec les mains, soit avec des maillotches. Et puis parfois, je les accompagne au piano.
Alors, tu nous as cité les cymbales, tu peux nous citer d'autres instruments.
Il y a plein de petites percussions à main, plus celles que je fabrique ou qui sont vraiment de l'ordinaire, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, taper au sol, taper sur des chaises, enfin, ou taper ou frotter encore une fois. Moi, je me sers beaucoup de gestes aussi, de sound painting, impro dirigé, on va dire. Donc les mains, les joues, le corps, tout ça. Je me sers aussi d'un instrument qui s'appelle de chez Playtronica, qui s'appelle le Touch Me. C'est un instrument vraiment où on peut jouer du piano sur l'avant-bras, par exemple, de quelqu'un. Hein, c'est une espèce de système conducteur qui est généré par un ordinateur et donc qui est conducteur, et donc on peut vraiment si on tape sur les joues, ça fait des sons de batterie, pourquoi pas, etc. J'ai plein d'instruments comme ça, assez dédiés à ça, justement, ouais, à la musicothérapie.
Alors, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est en fait comment on fait la différence entre du bruit et de la musique. En fait, pour eux, tout est musique. Pour toi aussi,
pour
d'ailleurs.
Moi aussi. Oui, c'est pour ça que j'aime bien parler du discours musical. On crée un discours musical avec de la matière. Tu veux parler de musicalité, et ben oui, on en trouve de la musicalité, mais la musicalité, elle se trouve justement en explorant des choses, des matières, des sons, des accords, etc. Hein, voilà.
Et après, tu dis que tu fais des jeux avec eux, tu crées des situations de jeu à travers donc avec l'instrument ou juste entre eux, la voix, comment tu mêles tout ça?
Oui, mais par j'aime beaucoup faire les diriger et pour qu'après ils nous dirigent. Et ça, c'est des vrais moments. Par des petits gestes simples, envoyer le son, stopper le son, etc., improviser des choses. On invente des signes et on, par exemple, un signe, je sais pas, un trait sur la joue, ça veut dire, par exemple, on imite le bruit des cigales, donc ils font tous des choses comme ça. Déjà, ça, c'est de l'émission vocale, hein. Et donc, des petites choses comme ça. Donc, on apprend vraiment à émettre des sons. Il y a vraiment ce côté prédominant de émetteur-récepteur, toujours.
Donc et là, voilà. Effectivement, il y a émettre des sons. Et alors, je reviens toujours cette idée sur le du collectif, là. Oui. Comment ils se constituent, qu'ils jouent ensemble. Voilà.
La notion de groupe, est-ce qu'elle arrive enfin? Elle arrive enfin. Bien sûr qu'elle arrive à un moment donné. Personne n'en a vraiment conscience sur le moment, mais parce que c'est ça, en fait. On le voit, nous, quand on fait de la musique, même moi, quand je répète avec des gens ou des nouveaux groupes, par exemple, avant que l'idée même de groupe arrive, il faut se pratiquer, hein, il faut se pratiquer, jouer ensemble, hein, jouer dans le jeu. Hein. Winnicott disait, c'est en jouant et seulement en jouant qu'on devient, qu'on devient quelqu'un aux yeux des autres, hein, aux yeux du monde, quoi. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Et donc voilà, oui, il y a une vraie acceptation du groupe en tous les cas. Pour ces enfants, c'est ce qui est important, hein, accepter le social. Hein. J'appelle le social, c'est le groupe, hein, du coup. Hein. Et on peut se dire qu'en acceptant ce social-là, ils l'accepteront encore mieux chez eux, puisque c'est les enfants souvent qui ont des problèmes de communication avec les parents et avec leurs frères et sœurs, souvent. Hein. Donc,
Oui, en s'ouvrant au groupe, ils s'ouvrent aussi à leur
Absolument.
Milieu social et tout ça.
C'est ça l'idée, oui.
Voilà. Et alors, après, tu dis, on construit un conte avec des mots de la musique, avec le verbal, donc, la musique et le verbal.
Le geste.
Et un spectacle, donc, tu dis...
Alors, quand un groupe est bien constitué, qu'on a vraiment su créer un discours musical... qui réunit, qui fédère vraiment, où la communication exulte. Très souvent, c'est vrai que je me retenais peut-être au début de proposer des micro-spectacles, parce que je me disais, la dimension, elle doit être thérapeutique. Mais après tout, je me suis dit, on s'est dit avec l'équipe de soignantes, ce serait bien de présenter aussi le travail devant les parents. Devant la direction du conservatoire, etc., les élus, quelques élus, etc., pour voir aussi ce que c'est la finalité d'un atelier de musicothérapie, de création spontanée. Et voilà, depuis quelques années, dès que je peux, je prends la salle de théâtre. On a une magnifique salle de théâtre conservatoire. Et déjà, le fait de les retrouver dans cet espace, s'exposer face aux parents, face aux soignants, face à des gens avec des lumières différentes, c'est aussi un vrai parcours. C'est vraiment une opportunité supplémentaire pour eux, je trouve, et pour tout le monde, au final, de présenter leur travail devant les parents.
Et ça se prépare tout le long de l'année, je dirais.
Oui, ça se prépare tout le long de l'année, mais on ne se met aucune pression. Il n'y a pas du tout de pression de présenter quelque chose en fin d'année.
Oui, c'est
pas du
tout important. Où tu dis, on va préparer le spectacle.
Voilà, c'est pas du tout vraiment. Et à un moment dans le groupe, on le sent. Les enfants, ils paraissent hyper disponibles. Et on se dit, c'est bon. Là, oui, ça, il faut vraiment qu'on le présente. Ce serait dommage de le garder juste pour nous.
Voilà. Alors, la fin de la séance, tu dis que tu es sur la musicothérapie réceptive. Pardon. Donc, la fin de la séance, tu fais de la relaxation.
Oui, c'est ça. C'est une musique. Là, ils ont travaillé. Il y a eu la décharge, plus après un travail ciblé. Et à la fin, on va tous s'allonger au sol. Et je vais leur passer un ou deux extraits pour regagner doucement le camion et reprendre leurs activités communes.
D'accord. Après, vous faites un débriefing avec les soignants,
ouais,
tout ça.
Ouais. Voilà.
Alors, pour plus d'informations, donc on peut échanger avec toi au conservatoire.
Oui, donc, ou sur mon Instagram.
On te trouve au conservatoire de musique. Avec les soignants, parce que bon, tous les enfants dans cet âge-là, j'allais dire, ne sont pas forcément suivis à l'hôpital de jour, et ça peut, des parents peuvent avoir envie d'en parler avec nos auditeurs, là, d'en parler avec les soignants. Donc on peut rencontrer les soignants à l'hôpital. Comment ça se passe?
Pour des parents qui auraient des demandes concernant leurs enfants, bien sûr. Oui, mais ça, après, ce sont des parcours classiques de rendez-vous en pédopsychiatrie, bien sûr.
Voilà. Donc on peut, soit à travers toi, soit à travers les soignants à l'hôpital, voir, parce que on imagine des gens intéressés, et voir comment leur enfant pourrait s'intéresser là.
Je rappelle quand même que cet atelier est exclusivement dédié aux enfants qui sont suivis à l'hôpital de jour d'Antibes.
D'accord. Alors, à toi personnellement, tu ne fais pas que ça. Donc, tes projets, parce que tu as un groupe.
Bon, moi, je suis musicien.
Donc, tes prochains concerts, là, avec les professeurs du conservatoire, on a présenté professeur en scène. Tu vas intervenir quand ou
On doit jouer.
Je ne sais plus, je prends le cours,
je n'ai pas les dates. On a un concert en trio avec Eric Sampé et Frédéric Colombani, mais ça concerne le CCAS d'Antibes, je crois. Ça, c'est pour ce qui est du conservatoire. Après, j'ai des dates.
Et après, toi,
qui arrive.
Ton groupe, tu as plein de projets.
Je suis sur un projet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment avec Philippe Molino, qui s'appelle En Partance. Et on a joué là, dernièrement, et on doit rejouer en mai avec Jean-Marc Baccarini, en plus, au saxophone. Et voilà, et puis d'autres petits concerts en préparation.
Alors moi j'avais envie de terminer avec Zayas Ioani, qui dit « La musique, ça permet vraiment de s'ouvrir au monde et d'apprendre à être plus tolérant. C'est un enseignement très précieux et je trouve que ça fait bien la synthèse de ce dont nous venons de parler. »
Absolument.
Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain. Vous pourrez réentendre Alexandre parler de musicothérapie le 24 février. À 21h.